la parole de Dieu avec vous. Le PowerPoint peut s'afficher, merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir avec moi, non pas le psaume 90, il s'affiche, mais si vous voulez, vous pouvez déjà ouvrir l'épître de Paul à Tite. Et on fera une lecture dans quelques instants. Épître de Paul à Tite. Et vous pourrez prendre à partir du chapitre 2. Comme ça, vous n'aurez qu'un seul verset, enfin qu'un seul passage à chercher. Voilà ce que j'ai sur le cœur pour ce matin, pour vous, pour nous, parce que ça me concerne, nous sommes tous concernés. Est-ce que j'ai la main? Il semblerait que je n'ai pas la main. Ouais, peut-être il vaut mieux relancer. Merci beaucoup. Magnifique. Super. Voilà la pensée qui est sur mon cœur pour vous ce matin, parce que c'est vrai qu'en cette période de début d'année, très souvent, on a la bonne habitude de se présenter des vœux. Et très souvent, nous souhaitons, c'est logique, une bonne et heureuse, bonne, heureuse, du bonheur. On se souhaite une bonne et heureuse année. Et souvent, nous rajoutons, et surtout la santé, parce que c'est vrai, c'est tellement important. Mais derrière tout cela, je me dis, nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus, ne pouvons-nous pas nous souhaiter des choses plus précises et encore plus élevées? Parce que finalement, si on devait s'interroger les uns les autres, le bonheur, c'est quoi exactement? On n'en aurait peut-être pas tous la même définition. Et puis, on se souhaite sincèrement une bonne et heureuse année et la santé. Mais en vérité, qui sait de quoi la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année sera faite? Et parfois, quand les gens dans le monde se souhaitent ça, c'est très sincère, hein, bien sûr, et c'est bien. Mais il y a une espèce de côté un petit peu, je ne veux pas dire superstitieux, mais limite un peu fataliste, en espérant, hein, bonne année, bonne santé, en espérant qu'il ne nous tombe pas un truc sur la tête et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Voilà, il y en a qui touchent du bois, il y en a d'autres qui croisent les doigts, et puis voilà. Nous avons, nous, des choses tellement plus importantes à nous souhaiter. Et puis pour ce matin, j'ai eu à cœur, ce qui est revenu dans ma tête, c'est cette parole de Moïse. Le psaume 90, c'est un cantique, c'est une prière de Moïse. C'est Moïse qui l'a écrit. Moïse était l'homme le plus doux, il est devenu. Ce n'était pas comme ça au début de sa vie. Mais Moïse était devenu l'homme le plus doux, le plus patient de la terre. Et il était effectivement aussi empreint d'une très grande sagesse. Et c'est Moïse qui dit ceci, et je crois que c'est vraiment ce que je veux vous souhaiter pour moi, pour vous, pour cette année, pour toutes les situations diverses et variées, les situations de vie auxquelles vous serez confrontés. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce qu'on va se lancer tête baissée dans l'année qui vient ? Pour que rien ne change et qu'on fasse tout toujours pareil, les mêmes jours, les mêmes schémas, les mêmes traditions, les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, les mêmes failles, les mêmes limites, les mêmes échecs. Où est-ce qu'on va se poser, on va s'arrêter, puis on va dire « Seigneur, tu as été fidèle dans les années qui ont passé, merci pour ta fidélité. Merci pour l'année nouvelle. Merci Seigneur pour le temps que tu me donnes. » Et je crois que c'est important, bien-aimé, de considérer que, premièrement, que le temps que le Seigneur nous accorde, chaque jour, comme dit Paul, chaque jour où nous ouvrons nos yeux sur cette terre, chaque jour où nous avons le mouvement, la respiration, l'être, de bien comprendre que chaque jour est une grâce de Dieu. Et ce message, c'est en quelque sorte mes vœux pour vous, pour moi, d'être conscient que le temps est précieux. Le temps est précieux, c'est un cadeau de Dieu et c'est à nous d'en réaliser, non seulement d'en réaliser la valeur, mais aussi d'en faire un bon usage. Et ça, c'est pas si simple. Sans être pessimiste, je veux pas être pessimiste, mais vous êtes d'accord avec moi que il est évident, c'est même objectif, qu'en réalité, personne ne connaît le nombre de ses jours. Seul le Seigneur, c'est ce que dit David dans le psaume 139, « Seigneur, tu connais le nombre de mes jours avant même qu'aucun d'eux n'existe. Sur ton livre étaient déjà et tous inscrits le nombre des jours qui m'étaient destinés. » Donc ici, à bien compter nos jours, enseigne-nous à bien compter nos jours, n'est pas à prendre évidemment au sens, vous avez compris, littéral, mais c'est plutôt, la pensée, c'est d'en comprendre la valeur. Comprendre la valeur du temps que Dieu nous accorde, ce qui va nous permettre de fixer des bonnes priorités, de faire des bons choix, d'avoir de bonnes orientations, et ce qui va nous permettre effectivement d'appliquer notre cœur à la sagesse, de centrer nos cœurs sur l'essentiel. Vous avez noté ici, enseigne-nous, enseigner et la sagesse. Maintenant, on peut lire dans Tite, au chapitre 2, on va prendre les versets 11 à 14, même si je ne peux pas prêcher tout ce qu'il y a dans ces 3-4 versets, c'est trop grand, c'est trop riche. Mais on va quand même prendre le temps de lire ces versets, ils sont magnifiques. Tite, chapitre 2, on prend à partir du verset 11. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et on sait que cette manifestation suprême de la grâce, c'est Jésus. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, verset 12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Il y a ici un enseignement de la grâce. Comprenons que le temps que Dieu nous accorde est une grâce. Et je vais surtout parler avec vous ce matin, méditer avec vous sur la question de la sagesse. La justice et la piété sont effectivement aussi passionnantes, mais essentiellement sur la sagesse. Cette sagesse qui est indispensable, qui est même, je dirais, inestimable, c'est l'inestimable, l'indispensable sagesse de Dieu. Ce dont nous avons besoin, la sagesse de Dieu, est un principe. Pas seulement quand nous passons par des moments difficiles, douloureux, compliqué, où nous sommes amenés à dire « Seigneur, fais-moi grâce, secours-moi, inspire-moi, donne-moi ta sagesse, comment est-ce que je vais gérer cette personne, comment je vais gérer cette situation ?» Il y a des situations, oui, on demande, il faut le faire, demander au Seigneur sa sagesse. Mais la sagesse est un principe général. En réalité, c'est un principe plus profond, c'est un principe de vie qui va nous amener à gérer autant le bon jour que le mauvais jour. Le bon jour, tout simplement, parce que si c'est vrai que j'en ai besoin dans les temps difficiles, j'ai aussi besoin de la sagesse de Dieu pour ne pas gaspiller ce qu'il me donne, pour ne pas dilapider ce que dans sa grâce il m'accorde. Et même quand tout va bien dans ma vie, j'ai quand même besoin, ou devrais-je dire peut-être même désespérément besoin, de la sagesse de Dieu. Cette sagesse, en définitive, qui est utile à tout. Cette sagesse, on l'a vu dans la gestion de notre temps. Combien de fois nous disons ou nous entendons « Ah, je suis désolé, je n'ai pas le temps. » Vous avez deux choses essentielles dans la vie, le libre arbitre et le temps. Et très souvent, quand nous disons « j'ai pas le temps », nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements, parce que le temps, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais quand nous disons « j'ai pas le temps », c'est très pratique parce que ça nous évite de regarder certaines priorités en face. Ça nous évite de regarder certaines situations ou certaines personnes en face. Quand on dit « j'ai pas le temps », ça m'évite de faire les choix qui s'imposent, des choix que je n'ai pas envie de faire ou d'affronter. Mais en réalité, le temps, je l'ai. Mais le temps doit être construit, il doit être structuré, il doit être organisé. Il doit être priorisé parce que le temps est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. La sagesse de Dieu dans la gestion de notre temps. Je vous souhaite cette année la sagesse de Dieu dans la gestion de votre santé. Il y a des moments où nos corps, évidemment, connaissent la maladie, ils peuvent dérailler, il y a des dérèglements corporels. Ce sont des maladies, ce sont des virus, ce sont des choses qui arrivent. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que des choses extérieures qui affectent nos corps. Il y a aussi, par manque de sagesse, des moments où nous avons maltraité nos corps et nous n'avons pas voulu aller chez le médecin. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, on n'a pas voulu regarder cette chose en face. Puis un jour, le médecin vous dit, vous savez, si vous avez du diabète, il faudrait que vous compreniez que 1, 1, 1, 1, et ça, il faut le gérer. C'est comme ça. Ça s'appelle pas une épreuve, ça s'appelle de la sagesse. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour gérer mon temps. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour gérer mon corps, pour gérer ma santé, parce que la santé que Dieu me donne est une grâce. Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux en faire ? Il y a des moments, nos corps ont des carences, vivent des déséquilibres et des dérèglements réels. Pourquoi ? Parce que nous manquons de sagesse dans l'utilisation de notre corps comme de notre temps. Je vous souhaite de la sagesse dans la gestion de vos biens, des choses matérielles, des choses financières. Parfois, par manque de sagesse, on s'est mis dans des situations matérielles, financières, extrêmement compliquées. Je passe rapidement parce que tout pourrait être développé, mais ce n'est pas mon but ce matin. De la sagesse dans nos relations. Sagesse dans la relation de couple. Sagesse dans la relation familiale. La sagesse est utile à tout. La sagesse dans les relations professionnelles. La sagesse avec les relations, avec les amis. Et là encore, bien souvent, parce que nous n'avons pas identifié dans nos vies certains déséquilibres relationnels, nous nous sommes entrés dans bien des complications, dans des conséquences qui parfois étaient néfastes. Parfois, il y a, je le dis ainsi, il y a des tempêtes, oui, qui sont, oui, Dieu a permis, il a envoyé ses disciples dans la tempête, le Seigneur a volontairement généré une tempête, parce que, oui, il fallait qu'ils apprennent. Parfois, oui, il y a des attaques, certes toujours sous le contrôle souverain et absolu de Dieu. Parfois, il y a des attaques de l'ennemi. Elles sont contrôlées, mesurées, permises par Dieu, parce que nous avons aussi à apprendre et à grandir en force. Puis il y a des moments, bien aimés, il ne faut pas se mentir. Nous sommes dans certaines situations, il y a des tempêtes, pardonnez-moi, mais nous les avons générées tout seuls. Pourquoi ? Parce que nous avons manqué de sagesse. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu nous avait tout donné. Même, je vais peut-être vous choquer, même dans notre service pour Dieu. Il n'y a encore pas très longtemps, j'ai parlé à un frère dans le ministère. Je lui dis, frère, il faut que tu comprennes. Ce n'est pas toi qui construis l'Église, c'est Jésus. Toi, tu es un outil. Et l'outil, de temps en temps, il se calme et il va se raccrocher. Et si tu ne prends pas soin de ton ressourcement personnel avec Dieu, ce que tu me racontes là, ça ne va pas durer. Quelques mois plus tard, burn-out. Est-ce que le burn-out dans la vie des chrétiens, des disciples, des pasteurs, est-ce que le burn-out fait partie du plan de Dieu ? Non. Manque de sagesse. La sagesse est utile à tout. La sagesse me garde, elle me préserve dans tous les domaines de ma vie. C'est comme un rempart, c'est une forteresse qui va protéger mon couple, mes relations, mon ministère, mon service, ma santé, mon temps, mes biens. Tout ce que j'ai peut être protégé par la simple sagesse de Dieu. Et dans tous ces domaines-là, elle est extrêmement importante. Quelques pensées que j'ai mises ici pour nous au sujet de la sagesse. Bien comprendre que la sagesse, là on ne parle pas de la sagesse humaine, qui avec le temps, vous savez, avec les années, on a fait une erreur, deux erreurs. Bon, des fois, on n'a pas forcément appris à la première erreur. On a tendance, parce qu'on est humain, à reproduire souvent les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Mais on reproduit des mêmes schémas, mais au bout de 2, 3, 4 fois, on se dit, ouf, ça oui, c'est vrai, il a raison, il faudrait peut-être que je réfléchisse. Et il y a une forme de sagesse humaine qui est acquise par l'expérience, par la douleur, par les échecs. Il y a une forme de sagesse humaine, bien sûr. Mais la sagesse, ça c'est la sagesse, je dirais, avec un S minuscule. Mais la sagesse de Dieu, c'est une sagesse, je le dis ainsi, avec un S majuscule. C'est un attribut exclusif du Dieu trinitaire. Dieu le Père est parfaitement sage. Dieu le Fils, Jésus sur la terre, était rempli de sagesse, Luc chapitre 2, Marc chapitre 6. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, dit Paul, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le livre de Job dit clairement que, Job 32, j'ai mis ici la référence pour ceux qui veulent, désolé pour tous nos aînés, non, ce ne sont pas les cheveux blancs qui procurent la sagesse. Le livre de Job dit que la sagesse ne vient pas avec le nombre des années. Ce n'est pas l'âge qui va permettre d'être sage ou d'estimer les choses plus ou moins bien. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est forcément plus sage. On peut être âgé, malheureusement, et vivre dans des déséquilibres terribles et manquer de sagesse sur beaucoup de choses. Puis, à contrario, vous avez des jeunes. Vous avez un homme comme Joseph, 30 ans. Comparé à des gens qui ont 80 ans, 30 ans, on est des gamins. Okay, 30 ans, Joseph sort de prison après avoir interprété le songe du Pharaon. Et Pharaon lui dit à ses conseillers, « Trouverions-nous un homme comme Joseph qui a en lui l'esprit du Dieu vivant? Trouverais-je dans le royaume tout entier un homme aussi intelligent et sage que toi? Puisqu'il n'y a personne d'autre dans ce royaume qui est comme toi, sache que, je paraphrase l'idée de Pharaon, tu as carte blanche. Il n'y a que moi qui serai au-dessus de toi. Mais tout le reste, c'est toi qui vas le gérer parce qu'en toi, il y a un esprit différent. C'est l'esprit de sagesse. Et Pharaon avait discerné dans Joseph, qui avait 30 ans, l'esprit de sagesse, la sagesse de Dieu. Daniel, lorsqu'il est déporté avec Anania, Mishaël, Azaria, il est déporté par Nebuchadnezzar vers Babylone. Au moment où on lit Daniel, chapitre 1er, Daniel a peut-être 16 ans, 17 ans. Mais Nebuchadnezzar prenait du temps, et ensuite derrière, le roi Belshazzar prenait du temps et écoutait Daniel, parce qu'il nous est dit que Dieu avait donné à ces quatre jeunes gens de l'intelligence, de la science en toutes choses, et de la sagesse. Et à 17 ans, ils étaient plus sages que tous les sages du royaume, et ils confondaient tout le monde, simplement parce qu'ils avaient en eux la sagesse de Dieu, ils étaient remplis de sagesse. Dieu seul est sage, Jésus rempli de sagesse, esprit de sagesse. Peut-être devons-nous aussi, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais peut-être réaliser à quel point la sagesse de Dieu est précieuse. La parole de Dieu, j'ai mis que deux textes ici, mais il y en a beaucoup d'autres, qui parle de la valeur de la sagesse de Dieu et qui vaut plus. Alors, ce n'est pas que cette année, je ne vous souhaite pas une bonne promotion, une bonne augmentation ou je ne sais pas quoi. Mais vous savez, en même temps, même si demain, mon patron, il me augmente, demain, il double votre salaire, je ne sais pas, vous avez la méga promotion. Mais vous n'avez pas la sagesse pour gérer ce qu'on vous donne. Le livre des Proverbes, le livre des Psaumes aussi, j'en ai mis que deux, mais il y a des tonnes de références. La sagesse vaut plus que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, dit Proverbe 16, vaut mieux que l'or. Ça, c'est la valeur inestimable de la sagesse de Dieu, bien plus importante même en termes de valeur. Je vais même vous dire un truc, pardon, qui peut paraître choquant. La sagesse de Dieu en toi, mon frère, ma sœur, a bien plus de valeur que la fin de ta tempête. Bien plus de valeur que la fin de ton épreuve, de ton adversité, de ton problème, ta difficulté. Dieu change les temps et les circonstances. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Dieu est un Dieu d'impossibilité. Amen. Mais il y a un miracle intérieur qui s'appelle être rempli de la sagesse d'en haut. Et si demain, peu importe ta situation, le Seigneur, parce qu'il change les temps et les circonstances, tu sors de ton épreuve, mais tu n'es pas plus patient. Tu n'as pas plus saisi l'esprit de la grâce. Tu n'es pas plus sage dans la gestion de tout ce dont on a parlé. À quoi servirait le fait de sortir d'une épreuve ? J'ai rien appris. Et du coup, l'épreuve suivante, je me retrouve dans le même désarroi, les mêmes limites, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et on recommence, et les mêmes incompréhensions. Seigneur, les temps, les circonstances, tu feras ce que tu as à faire. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Amen. Seigneur, pour l'instant, pour cette année, dans ma situation, dans le bon jour comme dans le mauvais jour, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Ça, c'est une prière. Amen. Salomon l'a faite, cette prière. Bonne nouvelle. Cet attribut exclusif du Dieu trinitaire, le Seigneur veut vous le partager. Ah, il ne partagera pas son omniscience, ni sa préscience, ni son omnipotence, ni son omniprésence. Les attributs métaphysiques sont à lui et à lui seul, il ne les partage avec personne. Par contre, il partage son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité, sa douceur, sa sagesse. Dieu donne la sagesse. Proverbe 2, l'Éternel donne la sagesse. Daniel 2, 21, c'est aussi là dans le même contexte que Daniel dit au roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse, qui établit les rois. C'est lui qui donne la science aux intelligents et c'est lui qui donne la sagesse. Voilà, amen, ça c'est la bonne nouvelle. Et quand on regarde différents hommes, là aussi il y aurait beaucoup d'exemples, j'en ai pris que quelques-uns. Quand on regarde quelques exemples de la parole de Dieu, et effectivement, Joseph, 30 ans, sort de prison, il interprète le songe de Pharaon. Et Pharaon, est, avec ses conseillers, je vous l'ai dit, il est subjugué. Trouverions-nous un homme? Le pays est dans une crise sans précédent. Il y aura 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres. Le pays va passer par une disette, une famine sans précédent. Joseph, par la sagesse par laquelle il était animé, non seulement va permettre de sauver l'Égypte, mais en plus va être en débordant, va même réussir, après vous connaissez l'histoire, à faire venir sa famille et va être une bénédiction sur sa famille, sur le peuple d'Israël, qui lorsqu'ils vont arriver, il va leur donner le pays de Goshen. Il va même se permettre, dans une période de disette, de leur donner le meilleur Goshen. Le meilleur, c'est la meilleure partie du pays. 30 ans, Joseph, premier ministre de l'Égypte, il sauve un peuple entier de la famine et toute sa famille et il les installe dans la meilleure partie du pays alors que normalement, c'était le moment de couper les vannes, les robinets, il ne fallait pas parce que est-ce qu'on va manquer, etc. Il a même trouvé le moyen de bénir encore d'autres parce qu'il était rempli de la sagesse d'en haut. Salomon, ça on peut le lire ensemble, vous voulez bien venir avec moi. Un roi, chapitre 3. Un roi, chapitre 3, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on peut prendre, j'ai mis verset 5, mais on va même prendre à partir du verset 11, je ne veux pas être trop long. Dans le contexte, un roi, chapitre 3, on prend à partir du verset 11, s'il vous plaît, dans le contexte, c'est très simple. Dieu se présente lui-même à Salomon. C'est le début du chapitre 3. Salomon est à Gabaon. Dieu se présente lui-même à Salomon. Et il lui dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te le donne, je le fais. Ça ne vous arrivera pas demain matin. Hein. Mais supposons que, imaginez, le Seigneur vous apparaisse comme il est apparu à Salomon. Et le Seigneur vous dit, un tel, Stéphane, demande-moi ce que tu veux. Par contre, tu ne me fais pas ta liste de courses. Hein. Tu me demandes quelque chose, je le fais. Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde, je le fais. Qu'est-ce que vous lui demandez au Seigneur? Vous ne sortez pas toutes vos cartouches, hein. Vous lui dites une chose. Qu'est-ce que je lui demande au Seigneur? Seigneur, je voudrais ne plus jamais être malade. Je voudrais que de maintenant jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que tu viennes me reprendre, Seigneur, je voudrais être dans une santé. Ce serait mal, ça? Est-ce que ce ne serait pas légitime? Est-ce que ce ne serait pas compréhensible? Seigneur, donne-moi la santé jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Je ne veux plus connaître, je ne veux plus retraverser ce que j'ai traversé. Seigneur, un autre dirait peut-être, Seigneur, moi, je voudrais du premier jour, là que tu me parles, jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, je ne voudrais plus jamais avoir le moindre problème. Une vie, un tapis rouge, des pétales de rose tout le long, pas une seule épine. Seigneur, je veux une vie facile, tranquille, confortable, sans soucis, sans problème, jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Est-ce que ce ne serait pas légitime ? Et on pourrait les uns et les autres, en fonction de nos peurs, de ce qu'on a vécu, pas vécu, de ce qui nous a traumatisés, blessés, fait mal, etc., de nos peurs, on pourrait dire, Seigneur, accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi. Et Salomon, lui, il a fait cette prière, il a dit, Seigneur, puisque dans une grâce qui dépasse, je paraphrase, puisque dans une grâce qui dépasse tout ce que je peux concevoir, tu m'as établi sur ce peuple aussi nombreux. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Il fallait quand même être déjà suffisamment sage pour demander ça. Non ? Bonjour frères et sœurs, nous sommes le dimanche 4 janvier, il est 10h35, bienvenue au culte, je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Donne-moi ta sagesse. Et Dieu, verset 11, lui répond. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, tu n'as pas demandé une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, ça pourrait être ça la fin de mes problèmes, la mort de mes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, parce que tu ne m'as pas demandé toutes ces choses, je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé en plus. Je te donnerai aussi des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura jamais, pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Et tant que Salomon est resté dans cette attitude de cœur, on sait que l'on venait de loin pour entendre la sagesse de Salomon. Évidemment, Salomon a eu évidemment ses richesses, cette gloire, cette renommée, cette sagesse. Tant qu'il est resté connecté à Dieu comme ça, tant qu'il avait ce cœur. Et si vous avez lu toute l'histoire de Salomon, vous avez vu que malheureusement, à la fin, c'est plus du tout la même musique. C'est plus du tout la même partition. Pourquoi ? Parce qu'il a cessé de s'intéresser, de vivre avec la sagesse de Dieu. Et c'est ce qui a été sa perte. Ils ont fait la différence. Joseph, Salomon, Daniel, je vous l'ai cité, personne n'était estimé plus sage que lui. Au temps de l'église primitive, Étienne, l'église primitive, vous savez, ce n'est pas parce que c'était une église, je vous en parle tout à l'heure un peu de l'église primitive, ce n'est pas parce que l'église était en pleine expansion, qu'il y avait des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires, des conversions par milliers, etc. Ce n'est pas pour autant que tout était simple, que tout était facile. Ils avaient de véritables problèmes, de véritables défis, il y avait des enjeux, ils avaient des contradicteurs, ils avaient des opposants, ils avaient des percussions, des... Ça, alors franchement, vous l'enlèverez de l'enregistrement, les gars. Ils avaient des persécutions, merci. Ils avaient des répercussions, des retours de manivelle terribles, 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 terribles. Des assassinats, des meurtres, Jacques exécuté, Étienne lapidé. Et il nous est dit que Étienne, lorsqu'il parlait aux chefs religieux qui étaient là, quand il parlait aux gens, il nous est dit que tous étaient confondus. Personne ne pouvait résister, je cite, acte 6-10, on ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit avec lequel il parlait. Et dans tous les temps, dans toutes les situations, frères et sœurs, on s'aperçoit que c'est la sagesse de Dieu qui nous permet de faire face à tout et qui nous permet de gérer toutes les situations, autant le bon jour que les mauvais jours. Alors je termine avec ça, très simplement, puisque Dieu la donne, puisqu'elle peut faire la différence, puisqu'elle a une valeur inestimable. Cette sagesse d'en haut, comment est-ce que je l'acquiers, cette sagesse d'en haut ? Quatre pistes très simples à la lumière de l'Écriture. Ben, la première chose, c'est peut-être, c'est bête, mais c'est peut-être à un moment de réaliser que j'en ai pas autant que ce que je crois. Et Proverbes chapitre 3 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce qui signifie que, oui, j'en ai, avec un S minuscule, une sagesse humaine, j'en ai, mais le Seigneur me dit, ta sagesse, elle ne fera jamais la différence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Peut-être si je commence à comprendre que ma sagesse ne sera pas à la hauteur, je vais renoncer à ma sagesse. Ah, première chose, excellent. Une autre chose, les quatre sont importants, ce n'est pas un ordre chronologique, hein, c'est tout va ensemble. Je renonce à la mienne, j'en suis conscient, elle ne fera pas la différence. Psaume 111, Proverbe 9, disent que la crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, le yira en hébreu, c'est pas craindre au sens que j'ai peur. Les gens qui sont dans ce monde et qui refusent Dieu, eux doivent en avoir peur, parce qu'un jour, s'ils ne plient pas le genou devant Jésus, on sait comment ça va se finir. Mais là, il est question pour nous, disciples, non pas d'une peur, mais la crainte de Dieu dans la pensée biblique, c'est une sainte révérence. C'est un profond respect de la personne de Dieu, de ses attributs et de ses principes de vie. C'est un profond respect et on peut même souvent associer la crainte de Dieu à la piété, c'est-à-dire à cet attachement de cœur à la personne de Dieu, à son cœur et à ses principes de vie, les principes de son royaume. La crainte de Dieu commence à avoir un profond respect, un grand sérieux, à vraiment être sérieux avec Dieu. Mais ça, c'est déjà le commencement de la sagesse, et c'est ce qui va me permettre de grandir derrière. Renonce à ta sagesse, crains l'Éternel. Et puis, l'Écriture sainte n'a-t-elle pas été inspirée par le Saint-Esprit ? L'Esprit de sagesse. Et cet Esprit de sagesse, cette sagesse de l'Esprit, se retrouve dans l'Écriture sainte. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3,15, Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et là, ce n'est pas le salut au sens que tu peux être sauvé. Non, Timothée, il est pasteur quand Paul lui écrit et il est déjà largement sauvé. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. C'est-à-dire que ces saintes lettres, elles vont être salutaires pour toi dans les différentes situations que tu vas rencontrer dans l'Église que Jésus t'a confiée. Tu connais les saintes écritures. Elles vont te communiquer, elles vont te rendre sage. C'est salutaire pour toi et pour l'exercice de ton ministère. Et puis, ensuite, on lui en demande des choses au Seigneur, n'est-ce pas, hein, au cours d'une année. Une prière toute simple. Salomon l'a fait, d'autres l'ont fait. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Amen. L'apôtre Jacques dit, c'est dans le contexte non pas du bon jour, mais du mauvais jour. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis, sachant que ces épreuves vont produire la maturité de votre foi, votre patience, vous allez grandir spirituellement. C'est une des pédagogies de Dieu dans l'épreuve. Amen. Et Jacques, enchaîne, si quelqu'un parmi vous, dans la gestion de ces épreuves, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu, qui lui va donner sans reproche. Mais s'il la demande, qu'il la demande avec foi. Parce que quelqu'un qui demande à Dieu et qui ne croit pas, vous savez, quand je demande à Dieu pour la guérison, pour un boulot, pour ceci, pour une situation, il n'y a pas que dans ces moments-là qu'il faut vraiment mettre sa foi en action et dire « Seigneur, je crois, tu peux, tu es capable, je m'attends à toi, je me confie en toi ». Quand je demande à Dieu d'élargir mon cœur, de me donner plus de patience, plus d'amour, plus de fidélité, plus de, quand je dis Seigneur, donne-moi ta sagesse, Jacques dit, tu demandes avec autant de persévérance et avec autant de conviction que quand tu demandes des choses matérielles. Demande à Dieu sa sagesse, mais qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu s'il est ballotté par les flots, s'il ne croit pas. Demande à Dieu, mais crois dans ton cœur. Et il va te donner la sagesse parce que, verset 17, il est le Père des Lumières chez qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Voilà la sagesse. Et quand j'ai cette sagesse, eh bien, c'est ce que Paul dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, m'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Et la sagesse va avoir deux conséquences. La justice et la piété. La justice, on en a largement parlé dans le terme de la restauration. Vous savez que la justice, c'est d'avoir une vie qui soit bien positionnée, c'est-à-dire d'avoir des choix, des décisions, des prises de position, une façon de vivre qui est conforme aux principes du royaume de Dieu. Cherchez premièrement, Jésus dit, le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire à être bien positionné, et tout le reste, je vous le donnerai par-dessus. Et puis, une fois que je suis bien positionné en toutes choses, ben ensuite, c'est normal. Parmi toutes ces positions, il y a tous les bienfaits, tout le bénéfice de la piété, c'est d'avoir une vie d'attachement, d'enracinement à Dieu. Exerce-toi aussi à la piété, dit Paul à Timothée. Elle est utile à tout. Elle a en elle la promesse de la Zoé présente, c'est-à-dire elle va contribuer à la qualité de vie de Dieu en toi. Peu importe où tu es, peu importe ce qui te manquera ou pas, peu importe les problèmes, peu importe ce que tu auras à vivre, ce que je vous souhaite, bien aimé, dans l'année 2026, bien sûr, je vous souhaite une bonne et heureuse année, et même la santé. Et je vous souhaite même tout ce que vous voulez. Mais par contre, par-dessus tout, je vous garantis que si vous laissez la grâce de Dieu vous enseigner la sagesse, la justice et la piété, vous allez être heureux, mais vous allez être les plus heureux de tous les hommes. Alors, bonne année 2026 à tous. Amen. On prie le Seigneur ensemble un instant.